Bonsoir, plus de 30 millions de Français vont partir en vacances cet été, c'est 7% de plus que l'an dernier. Et parmi eux, eh bien, beaucoup vont choisir le club de vacances. Alors oui, il y a l'incontournable historique, bien sûr, Club Med, mais vous le savez, depuis la formule, elle a essaimé avec les Coralia, les Kappa, les Bravo Club, les Framissima, les Lucas, je préfère toute la liste, bien entendu, en tout cas une formule qui a résisté aux coups de boutoir d'Internet, des applis comme Booking, au point que le club de vacances est peut-être devenu l'un des leviers essentiels de l'industrie du tourisme, voire même, quelque part, une illustration du renouveau du monde du voyage. Alors le club de vacances est-il l'avenir du tourisme? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, titre un peu provoque. J'ai fait venir les meilleurs, évidemment, grands témoins de tout ce petit monde, hein, tous ensemble sur le plateau quelque part. Ils pèsent le quart du chiffre d'affaires des clubs en France. Jean-Pierre Nadir avec nous, fondateur d'EasyVoyage.com. Avec nous également Philippe Sangoire, directeur de Kappa Club. Donc Kappa Club, le club Coralia, Boomerang Voyage. Avec nous Jean-Jacques Manceau, il est journaliste économique, auteur du livre « Les batailles du Trident ». Il nous emmène dans les coulisses du Club Med, hein, les coulisses de ces 4-5 dernières années, quelque part. L'idée du livre aussi, c'est de raconter cette OPA donc de 2 ans, qui a duré 2 ans, qui a touché le club il y a quoi, quelques années, bien sûr. Chinois versus italien, et puis haut de gamme versus moyen de gamme. Et puis Patrice Karadec, c'est le président d'Alpitour France, un tour opérateur qui exerce en France sous la marque Bravo Club. Il y a 14 clubs dans le monde. Voilà, c'est un professionnel des clubs de vacances. Il a fait toute sa carrière chez Nouvelle Frontière, chez Jet Tour, chez Look Voyage, avant de se lancer donc avec Bravo Club. Je vous disais, les meilleurs. Jean-Pierre Nadir, bon. Bonjour. On parle des séjours tout compris, bien sûr, transport et hébergement. Comment ça se porte, donc, ce marché en France?
Ce qui est intéressant, c'est votre question. Donc, est-ce que c'est l'avenir des opérateurs touristiques? On a souvent ici abordé le fait que l'industrie classique donc du tourisme vivait une mutation et plutôt donc des heures sombres. On sait que les grands tour opérateurs français, depuis maintenant 20 ans, se cherchent une destinée et ont subi coup sur coup donc l'avènement donc des low cost qui a finalement tué le charter. Puis ensuite donc ils ont eu le digital sur lequel ils étaient peu préparés. Donc et on a vu le triomphe donc de Booking. Et donc ce monde doit se réinventer. Si on cite, vous l'avez cité, Nouvelle Frontière, il y a 10 ans, c'était un opérateur totalement incontournable du marché français. Aujourd'hui, donc des gens de 20 ans connaissent à peine cette marque. Donc il y a eu une mutation extrêmement profonde.
Qui a été absorbée par l'Allemand T8, qui est le numéro 1 en Europe, justement, des clubs de...
Qui est le numéro 1 mondial, donc même numéro 1 en Europe, et donc numéro 1 mondial, puisque donc c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. C'est un opérateur extrêmement important. Mais pour revenir donc à la question posée, c'est quasiment un oxymore. C'est que les clubs de vacances, dans l'esprit général, c'est plutôt quelque chose du passé. Or, en fait, c'est clairement, effectivement, donc au cœur de tous les projets de développement de l'industrie touristique.
Pourquoi? Comment il se porte, le marché?
Pourquoi? Alors, le marché se porte plutôt bien, le marché des clubs de vacances, puisque cette année, donc, on va dépasser 2 millions de clients. Donc, c'est extrêmement important. Il y a 10 ans, on était à 1,2 million. Donc, on voit qu'il y a une croissance extrêmement forte, donc, sur le marché du club. Vous avez quasiment chaque année un nouvel opérateur qui se lance, donc, avec une dizaine de clubs de vacances. Donc, le Club Med, vous l'avez indiqué, donc, a été la locomotive, donc, initiale. C'est évidemment, donc, l'inventeur, donc, du concept. Ils ont, non seulement, donc, essaimé, mais même, effectivement, donc, entraîné, sublimé un certain nombre d'opérateurs. Et donc, aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est au cœur de l'industrie? Parce que quand vous regardez donc le concept des clubs de vacances, c'est-à-dire de faire un environnement donc avec de l'hôtellerie et de l'animation, vous avez un tas d'opérateurs qui ont, dans notre domaine, repris le même sujet. Vous avez l'hôtellerie de plein air. Aujourd'hui, vous avez un tiers des hôtels donc d'hôtellerie de plein air qui sont dits animés. Bon. Vous avez donc les croisiéristes qui ont repris tous les codes donc des clubs de vacances, et vous avez même les parcs d'attractions, puisque finalement tout ça participe d'une industrie qu'on pourrait appeler l'industrie du loisir.
C'est quoi le code du club de vacances. C'est quoi les atouts, allez, si on devait en citer 4-5, qu'on tourne dans un club de vacances?
Alors, si on prend les clients, on trouve la première raison dans un club de vacances, c'est de lâcher prise. D'ailleurs, Gilbert Trigano l'avait très bien expliqué dès l'après-guerre.
Co-fondateur du club Med avec Gérald Vitz.
Co-fondateur du prêt, et surtout donc promoteur de son développement. Et je pense effectivement donc de toutes les idées fortes qui ont permis au club de se développer ensuite, après l'idée originelle, sur effectivement donc le rapport sociologique en fait du client donc au club de vacances. Là encore, on culpabilise donc le client qui voudrait donc de la détente et de la récupération. Or en fait, il y a 71% des gens qui disent quand je pars en vacances, c'est pour me reposer. Donc j'ai pas forcément envie de découvrir, je veux me reposer. Et donc le club permet ce lâcher prise pour trois raisons. La première, parce que vous avez donc un budget fixe, donc vous n'avez plus d'angoisse donc sur les dépenses. La deuxième, parce que vous avez tout compris et tout sur place, bon, notamment l'activité sportive, donc la restauration, donc et la troisième donc raison, c'est que il y en a pour toute la famille. Vos enfants donc d'un côté sont servis, les parents peuvent effectivement donc aussi faire des activités, et donc ce concept de base du club perdure et se développe. Maintenant, vous avez des nouvelles formes, et on va en parler, je vais savoir avec mes camarades, mais il y a des nouvelles formes effectivement donc de club qui se développent, et c'est très intéressant de voir justement donc les évolutions à venir dans les 10 ans.
On va voir justement à quoi ça doit ressembler. On a deux acteurs sur le plateau, on a Patrice Karadec, donc Bravo Club, Philippe Sangouard, donc Kappa Club, Club Coralia. Comment se porte ce marché en France, un pays finalement dans lequel les Français, ils restent quand même beaucoup en France, quelque part, des Français qui construisent aussi souvent leur voyage avec Booking, avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on aime les clubs de vacances? Allez, Philippe Sangouard.
Disons que le pourcentage de Français qui part à l'étranger en voyage est toujours entre 10 et 15%. Il n'a pas évolué, puisque on sait que quand on fait de l'outgoing sur le voyage, le premier concurrent, c'est le produit France. C'est le premier concurrent, puisqu'on sait que la majorité des Français partent en voiture et à maximum 2 heures de chez eux. Donc, pourquoi le club a dû se réinventer aussi, pour faire justement trouver les originalités, les produits, les prix qui interviennent. Je voulais rajouter par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est que le premier critère d'achat aujourd'hui dans la distribution du marché français, le premier critère largement à 70%, c'est le prix. Donc le club...
Chez vous par exemple, il y a Philippe Sangouard chez Kappa Club, Club Coralia, c'est quoi le panier moyen? On part à partir de quel budget?
Le panier moyen global entre Kappa et Coralia, c'est 800 euros.
800. Et on va où pour 800 euros?
Pour 800 euros, vous allez dans le bassin Med en pic saison, et vous allez en basse saison en Rebdom, en Thaïlande, à Maurice,
Dominicaine, Thaïlande,
ou la Jamaïque, etc. Mmh. Donc aujourd'hui...
Le prix.
Il y a le prix. Mmh. Premier critère, c'est le prix. Deuxième critère, c'est la marque. C'est la rassurance de la marque. Et le troisième critère, c'est vraiment le tout inclus francophone. Donc ça, c'est trois critères. On vient de faire une étude justement pour le groupe Kappa Coralia avec Toluna, et on remarque que ces trois critères sont déterminants pour la vente d'un voyage en club.
Patrice Karadec, justement, donc qui part en club?
Le public du club est un public très large. Il s'est beaucoup élargi d'ailleurs ces dernières années parce que les clubbeurs, les clubistes, les voyagistes que nous sommes, spécialistes du club de vacances, avons tenté de sortir de ce marécage des clubs ou la banalisation du concept club qui était en train d'arriver, réinventant les semaines en club, en les réinventant de plusieurs façons. La première des choses, et je rejoins tout en restant dans un budget maîtrisé, puisque la sensibilité prix est énorme sur notre marché français, il y a quand même un aspect important aussi pour cette clientèle club qui est fidèle au concept des clubs, pas toujours fidèle à la marque de club, parce que le client est toujours difficile à fidéliser véritablement sur sa marque, mais fidèle au concept. Alors pour pouvoir l'accompagner dans cette fidélisation, il faut aussi s'inventer en termes de destination. Et aujourd'hui, les clubs s'ouvrent partout dans le monde sur des destinations traditionnelles certes, mais aussi très exotiques. Nous avons ouvert des clubs à Nosibé, une île au large de Madagascar, à Zanzibar, nous ouvrons à Oman l'hiver prochain, et aussi sur la côte pacifique du Mexique.
Puerto Vallarta.
Voilà, Puerto Vallarta, autant de destinations qui n'existaient même pas dans l'imaginaire du marché français jusqu'à présent, tout en gardant effectivement le côté traditionnel de ces clubs, sans être ringard pour autant, grâce aux activités très modernes et tendances qu'on apporte dans ces clubs, des destinations traditionnelles du bassin méditerranéen. Effectivement, on peut pas être un spécialisé club sans être en Grèce, sans être en Espagne au sens large, sans être même en Tunisie ou au Maroc, qui sont des destinations privilégiées du marché français. Au-delà des destinations, être un peu exotique, sortir des sentiers battus, réinventer le concept club, c'est aussi suivre les tendances des activités qu'on va proposer sur place. Un consommateur de club, Et je le dis, le club c'est ringard. Ben non, le club c'est pas ringard, bien au contraire. On a su, nous tous, professionnels réunis, redonner un sens à cette semaine en club en donnant des activités à des consommateurs qui toute l'année ont du mal à s'activer véritablement, boulot, métro, dodo, le poncif habituel. Ben, quand on va dans un club, c'est aussi pour se dépasser, se dépenser même, et ça nécessite des activités qui sont pas faciles à faire tout au long de l'année dans son quotidien. Voilà, chez nous en particulier, des activités assez moderne, assez tendance. Voilà, on met en place de l'apprentissage de pilotage de drone. Voilà quelque chose qui va séduire et qui séduit les adolescents. Pour ces mêmes adolescents, clientèle ô combien importante pour les clubs, hein, parce que on sait que pour les parents, c'est très 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 compliqué de séduire ces adolescents en vacances. On a mis en place l'initiation à ce qu'on appelle la skyline, vous savez, savoir marcher sur un fil, sur un ruban tendu entre deux arbres. Très simplement à mettre en place, qui nécessite de l'expertise, des animateurs passionnés, mais aussi experts, pour pouvoir faire vibrer toute cette clientèle de tout âge dans nos clubs de vacances.
Se dépasser, se dépenser, c'est ce que vous dites, Patrice Karadec. Jean-Jacques Monceau, je vois, par exemple, il ouvre à Oman, il ouvre à Puerto Vallarta, il ouvre dans des sites finalement, allez, loin, exotiques. Les hôtels clubs s'inspirent du Club Med, à votre avis? Comment est-ce qu'on peut, vous qui nous emmenez dans les coulisses du Club Med, dans les batailles du Trident, comment tout ce petit monde des voyagistes, des tours opérateurs justement qui lancent des formules de clubs de vacances finalement peuvent se démarquer intelligemment du Club Med?
Le choix, je crois qu'il a été largement commenté. Le choix du club, ça a été de cette fameuse montée en gamme. C'était l'idée qu'effectivement le nombre d'opérateurs se multipliant sur ce marché, il était clair que pour que le Club Med garde son petit quart d'heure d'avance, il fallait monter en gamme.
Alors que là au Club Med, on est loin des 800 euros du Kappa Club de Coralia dont nous parlait Philippe Sangouard pour une semaine.
C'est par personne.
En moyenne, j'entends bien. Ben, on est facilement au triple voire le quadruple pour une semaine. Hein.
Oui, alors après ça dépend si on va.
Et quand
on
je
va
dis parler, ça, c'est pas proche. Voilà,
non, mais on va parler en saison, en pic de saison ou effectivement sur les ailes de saison. La problématique du club, c'est qu'aujourd'hui, sa clientèle étant internationale, la notion de vacances scolaires n'a plus vraiment lieu d'être. Quand on voit, par exemple, dans le dernier village ouvert à Samoins, au mois de janvier, il y a eu plus de 1000 Russes certaines semaines. Des Brésiliens. Et donc, il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent parce que le Club Med, en fait, a cette capacité à attirer une clientèle internationale qui fait que, les resorts qui ne fonctionnaient que pendant les 15 jours de vacances de février, les 15 jours de Noël, aujourd'hui, peuvent se remplir toute l'année parce que le club a cette capacité à attirer l'international. On parlait d'activité. C'est vrai que pour moi, l'une des choses les plus frappantes et peut-être la moins connue de la montée en gamme, c'est la montée en gamme des activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Club Med, avant, ça a toujours été une très grande école de sport. Peut-être on dit la plus grande école
avec
de sport.
Du cirque, du trapèze, du ski nautique.
Aujourd'hui, le partenariat avec le Cirque du Soleil fait qu'ils offrent des activités de cirque, est une nouvelle façon de réinventer un peu la gymnastique, en fait, quelque part. Mais avec ce côté attrayant, parce que c'est le Cirque du Soleil. Dans le nouveau resort de Cefalù, il y a 15 jours.
C'est un 5 Trident, alors c'est un village de cases, il y a historiquement.
Aujourd'hui, ils proposent le surf électrique. Alors le surf électrique, j'ai essayé le surf électrique, c'est absolument génial. C'est-à-dire que le moteur électrique remplace la vague et on peut surfer à 40 km/h. Il y a aujourd'hui, la grande tendance en montagne pour l'été, c'est le VTT électrique. Aujourd'hui, à Pezé-Valandry, ils proposent le VTT électrique. Donc je pense que la montée en gamme, elle se fait pas seulement sur les logements, elle se fait pas seulement sur la nourriture, elle se fait pas seulement sur l'animation, elle se fait aussi sur les activités et la capacité d'attirer des nouvelles clientèles. Et le grand challenge, finalement, du club, mais d'autres aussi, ça peut être le cas aussi de Bellambra, c'est d'attirer une nouvelle clientèle à la montagne. Et pour attirer cette clientèle à la montagne, il faut leur proposer des activités, on va dire, un petit peu uniques.
Philippe Sangouard, directeur de Kappa Club.
Deux commentaires sur ce qui vient d'être dit. Très intéressant, le Club Med est vendu au niveau international, donc des prix hauts sur le marché français à toute période. Donc là, le différentiel que nous avons avec le Club Med, tous les tour opérateurs producteurs sur les clubs en France par rapport au Club Med, c'est 3 fois moins le prix du Club Med en moyenne. Mais c'est justifié par c'est de la haute saison tout le temps, puisque il y a les marchés de congés de vacances scolaires dans tous les pays.
D'Amérique du
Sud, totalement différents. Alors que nous produisons directement que sur le marché français.
Du local.
Monsieur Karadec ou moi-même, nous sommes que sur le marché local, donc nous sommes gestionnaires des vacances scolaires et des pics saisons et des basses saisons, d'où ces différences de tarifs. Deuxième point, la réinvention du Club Med et du club est intéressante puisque nous l'avons vécu. Nous avons deux marques, comme vous l'avez dit. Une marque, on va dire, club de vacances, qui est Coralia, et la deuxième, Capa Club, qui est un club de voyage, où on s'inscrit dans la découverte de la destination et rencontre avec la population locale. Et on va très loin, et la formule repeater, puisqu'on est à 40% de repeater depuis 5 ans, parce que cette formule de club innovant, on va dire de club autrement, est depuis 5 ans, et on a un taux de repeater de 40% de clients qui apprécient ce concept de découvrir la population locale, d'aller à la rencontre du pays, et de découvrir les sites, les lieux qui sont partis de l'animation. Comme on peut pas concurrencer au niveau sport, au niveau activité, le club, il faut aller chercher d'autres démarches d'activités qui vont interpeller nos clients.
Ah, c'est vrai, Jean-Pierre Nadir, quand on va par exemple Bellambra qui est le numéro un français, c'est quoi ces atouts? On voit Bellambra qui rénove, qui s'agrandit. C'est pour faire de l'élitisme, le modèle du Club Med sert d'exemple, je sens. Comment on arrive à se distinguer du club, justement?
Oui, alors, Bellambra, c'est un cas particulier, puisque Bellambra, finalement, c'est entre la résidence locative, donc, et le club animé. Donc, on est sur un modèle un petit peu différent. Mais en l'occurrence, ils reprennent un petit peu, donc, effectivement, donc, les mêmes codes. C'est-à-dire, on l'a pas encore dit, mais l'élément fondamental, c'est que tous ces gens-là misent sur la famille. Bon. Et sur la famille, et donc sur les enfants. Et donc, très clairement, c'est la grande invention, du Club Med, ça a été les mini-clubs, les clubs pour ados. Ça a été une véritable révolution, puisque on confiait ces enfants, à des tiers, qui non seulement les occupaient de manière épanouissante, mais en plus, vous en débarrassez pendant toute la journée. Donc, il y avait un double bénéfice. Et ça, Bellambra, c'est effectivement, donc, des codes qu'ils ont repris. Maintenant, Bellambra, c'est très sage. Je dirais que sur l'échelle, effectivement, de la réinvention des clubs, ils sont plutôt dans un modèle très classique. Là, ce que vient de dire Philippe, donc, c'est qu'effectivement, maintenant, d'autres opérateurs cherchent des idées pour réinventer tout ça. Jean-Jacques l'a bien dit, par exemple, la montagne. Initialement, les clubs, c'était quand même très lié à la mer. Donc, on était dans un concept, balnéaire, de plage. Là, maintenant, la montagne, c'est devenu le premier levier de croissance, du Club Méditerranée. Ils vont en ouvrir un chaque année. Et là, il y a un enjeu fondamental, mais qui est absolument excitant, qui est de remplir ces clubs l'été, puisque la montagne d'été, c'est pas cher, c'est le grand air, il y a plein d'activités, et pour l'instant, c'est un peu boudé par les clients. Donc là, il y a Henri Giscard d'Estaing fait un pari assez intéressant et on verra l'évolution. Mais ensuite, donc sur les nouveaux clubs, les nouveaux concepts, Patrice, on a un peu parlé. Vous allez maintenant pour tout le monde et ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez des clubs spécialisés donc dans les adultes. Hein, vous avez Adult Only, donc maintenant vous avez des gens qui disent, les clubs de vacances qui étaient à l'origine faits pour les familles et pour les enfants, nous on va faire la même chose, mais que pour les adultes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire de l'animation, évidemment, donc avec différents degrés d'animation. Ça peut commencer à Ibiza pour se terminer par le calme absolu, mais vous avez effectivement d'autres concepts qui se développent que là-dessus. Vous avez des boutiques hôtels qui se développent en club. Les Américains sont emparés du concept. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est le tout compris, 24 sur 24, vous avez accès à tout. C'est ça le vrai, finalement, point fort du club. C'est le sentiment de profusion. C'est ce que Gilbert Trigano avait très bien compris avec ces immenses buffets qui, à l'après-guerre, finalement, donnaient un sentiment de pouvoir se restaurer à l'infini alors qu'on avait manqué pendant des années. Et ben, dans les clubs, le vrai sentiment très fort, je pense, c'est le fait qu'on a tout à disposition. Et même si on ne veut pas le faire, c'est pas grave, on sait que c'était là.
Le Club Med, ça reste, pardon, on parle beaucoup du Club Med, mais enfin, bon, en même temps,
Fabrice surtout.
Précurseur, comment?
Vous tous.
Ouais, mais c'est normal, parce que quand on parle de club, ça reste le maître étalon à vos yeux. Tiens, Patrice Karadec, à la tête d'Alpitour.
C'est une référence.
Ouais.
C'est une référence. Maintenant, on peut pas dire que le Club Med il a inventé le club, mais il a pas réinventé tout ce qui se fait aujourd'hui en club. Juste une petite anecdote, qui n'en est pas une. Hein. J'ai participé dans ma carrière à la naissance de la formule tout inclus dans les clubs de vacances. Ça a vraiment révolutionné le concept des clubs. Comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, la sensibilité au prix est très très importante. Et puis lâcher prise, partir sans contrainte, c'est de se dire que je compte pas à la dépense. Hein, je regarde pas la dépense pendant les vacances. Pourquoi? Parce que la formule tout inclus permet d'éviter le sketch de Muriel Robin à l'heure de l'apéro quand on s'est fait de nouveaux copains dans un club. Parce qu'un club, ça sert aussi à rencontrer.
Sketch de l'addition. Voilà,
sketch de l'addition. Parce que finalement, c'est compris, ça a été payé, inclus dans le forfait. Ça a été une révolution pour les clubs. Ça a effectivement élargi énormément la clientèle des clubs. Et je voudrais dire que dans ce cas-là, le Club Med a été suiveur de ce qui a été inventé à l'époque par une autre marque. Il vend plus de colliers bar aujourd'hui, le club. Il est lui aussi dans une formule tout inclus. Et même s'il a inventé le concept club, il n'a pas inventé tout ce qui se fait aujourd'hui dans les clubs. Des marques comme les nôtres, comme Bravo Club, comme Kappa Club, sont, à mon sens, des marques extrêmement inventives. Pourquoi? Parce que on a un peu de bouteilles, on a un peu de provisions. Ça fait plusieurs années qu'on a travaillé. Je crois pas me tromper en me disant que Philippe Sangoire, comme moi-même, nous sommes des anciens du Club Med. Donc voilà, on sait ce qu'est un club depuis le départ. On sait ce qu'il faut changer par rapport à l'esprit du Club Med. Et je crois qu'Henri Giscard d'Estaing a su très bien le faire.
Qu'est-ce qu'il faut changer là?
Justement, il faut redonner un esprit, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus moderne, beaucoup plus tendance à ces clubs. Éviter la ringardise en disant qu'on fait toujours la même chose. C'est vraiment tout le contraire. Il faut faire en sorte de montrer que le Club Med, c'est pas fait seulement pour ceux qui sont des grands festifs et qui aiment le sport. Dans tous les clubs aujourd'hui, dans les nôtres en tout cas, dans les Bravo Clubs, il y a toujours deux ambiances un minimum qui sont proposées. On n'impose pas nos spectacles. On propose énormément d'activités et le client, notre client dispose de tout ce qui est proposé sur place. Terminer les soirées avec les grands spectacles où tout le monde se retrouve à regarder les animateurs sur scène.
C'est fini, ça aussi au Club Med. Enfin bon, pardon.
Je vois ça dans beaucoup de clubs aujourd'hui. Aujourd'hui, les soirées sont beaucoup plus éclatées. On propose énormément d'activités différentes parce que il en faut pour tout le monde. Il y a un côté zen, relax pour ceux qui veulent se reposer. Et même dans une famille, il y a des sportifs et des gens qui préfèrent bouger.
Jean-Jacques Manceau, le Club Med aurait pu être taxé ou menacé de ringardisation, a pu être également victime de ringardisation à un moment ou pas, à votre avis?
Il l'a été parce que c'est ça correspond à la période que tout le monde connaît, qui est la période du film Les Bronzés où la caricature.
Jusqu'à 40 ans, là, maintenant.
D'ailleurs, les Bronzés fêtent leurs 40 ans en novembre 78.
Je
pense qu'à ce moment-là, on est
tellement loin de ça.
On est tellement loin de ça. Voilà. Aujourd'hui, on est plus comme ça. Moi, je pense que l'une des dernières contraintes qu'il y avait encore dans les clubs de vacances, et le Club Med a fait sauter, et que d'autres font aussi sauter, c'est la semaine de vacances. C'est-à-dire qu'il faut arrêter.
Oui.
Les gens n'arrivent pas le samedi, ils repartent le samedi. Déjà, au Club Med, les gens arrivent le dimanche à la montagne, ils repartent le dimanche, ce qui évite les embouteillages. Et maintenant, on peut prendre 3 jours, on peut prendre 5 jours. Alors, je dis pas que c'est le seul endroit où ça se fait, mais c'était la dernière grosse contrainte, c'est cette impossibilité de casser cette fameuse semaine incompressible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une famille qui va au ski et qui arrive du mercredi au mercredi, vous pouvez pas dire aux enfants, tu passeras pas ton flocon parce que le flocon c'est le vendredi.
C'est le vendredi.
Et donc il faut négocier avec l'ESF parce que évidemment c'est les contraintes de l'ESF. Donc on peut pas dire aux enfants, on a décidé d'aller du mercredi au mercredi parce que c'était moins cher, parce qu'on a pris un petit peu hors saison, parce qu'on peut te faire louper un jour. Donc voilà, je pense que l'idée des clubs de vacances aujourd'hui dans la réinvention des clubs, et beaucoup d'acteurs essayent de réinventer à leur façon, c'est aussi de repenser complètement les vacances. Alors, vous parliez tout à l'heure du digital, mais le digital permettra aussi de repenser les vacances. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus accepter d'arriver dans un village, vous êtes dans un avion complet, vous arrivez à Punta Cana, vous n'allez pas faire 2 heures de queue pour avoir votre clé de chambre. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le digital pour réinventer ce parcours, ce fameux parcours client.
L'expérience client, Philippe Sangoire, comment on se distingue justement avec le digital? On voit la fameuse expérience client, le retour client, on voit sous la pression des acteurs du digital, les grands acteurs qui s'y sont mis. Accor Hôtel, notamment, précurseur quelque part en multipliant toutes sortes de services. Et puis maintenant aussi, les clubs de vacances, vous-même peut-être, Philippe Sangoire.
Je voulais aussi rajouter, c'est que aujourd'hui le client n'est plus que client, il est consommateur-acteur.
Ouais, ouais, ouais.
Donc le désir du client, c'est de choisir ses vacances. Il choisit un club de vacances pour le tout inclus, parce qu'il y a une maîtrise du budget, parce qu'il y a des prix compétitifs. Et ensuite, ce qu'on a remarqué dans nos clubs, c'est que pendant la semaine, rien ne lui est imposé, tout est proposé. Donc le client c'est l'acteur principal, il veut choisir ses sorties, il veut choisir sa découverte, il veut choisir son sport, il veut choisir ses soirées. On peut rien lui imposer, donc c'est ce qui a vraiment changé depuis même 10 ans dans les formules club.
Sur le digital, juste Jean-Jacques Manceau, je reviens vers vous dans un instant, puisque vous nous emmenez dans les coulisses du club avec les batailles du Trident, et c'était Sylvain Rabuel qui était venu ici même nous en parler au mois de janvier, c'est le DG du club, nous a expliqué au cœur de sa stratégie la considération client. Il veut même devenir le leader de la considération client. Et on est vraiment au-delà du sur-mesure. Il veut pas d'une relation client industrielle. Il a lancé une plateforme collaborative, clubmakers.fr. C'était un laboratoire d'idées composé de clients volontaires pour enrichir ses intentions. Par exemple, la garantie neige. on se fait rembourser en cas de météo capricieuse, par exemple. On n'oublie pas les outils numériques d'information, le big data, les algorithmes. C'est ça aussi, on va faire la différence grâce à ça, grâce au digital?
Moi, je pense que oui, la différence se fera à terme grâce au digital. Parce que la considération client, entre guillemets, c'est l'idée que le client, on s'en occupe pendant il se passe 90 jours entre la décision de partir en vacances et le moment où on fait son chèque, en tout cas, donc ces 90 jours, il faut les occuper, il faut réassurer le client, il faut l'informer, il faut lui donner des informations. Donc parmi toutes les plateformes qui ont été créées par le Club Med pour rester en contact permanent avec le client, il y a effectivement Club Med Makers qui est un petit peu une plateforme où les gens proposent des idées, mais il y a aussi une plateforme où les gens posent des questions. Parce que quand vous allez dans un village, comme on prend l'exemple de un village qui est relativement escarpé, comme ça peut être le cas à Yasmina ou en
Maroc.
Turquie, ces villages-là ne sont pas vraiment adaptés à l'usage d'une poussette. Et souvent, le client se demande, est-ce que moi, si je viens avec une poussette, est-ce que le village est adapté?
Je comprends.
Et plutôt que de faire répondre par un centre d'appel qui va dire oui, vous pouvez y aller, les gens aujourd'hui ne font confiance qu'à leur tiers.
Je comprends.
Donc, il faut que ce soit des vrais clients et ils répondent vraiment. Et donc, cette plateforme qui a été créée avec la petite start-up qui s'appelle WeBelong, en fait, l'idée, c'est chaque personne qui pose une question, elle est renvoyée à un certain nombre de gens qui, eux, apportent des réponses. Et le consommateur a confiance dans ces réponses, puisque ce sont censés être des réponses qui sont issues du bon sens. Est-ce que quelle marque de lait j'ai pour mon nourrisson dans tel village? Est-ce que j'ai accès à la, est-ce que le bar est loin de la discothèque? Enfin, j'en sais rien. Toutes sortes de questions. Donc, c'est ça le parcours client. Après, ça va encore un peu plus loin parce qu'il y a encore, il y a des expériences qui font qu'il faut garder le contact pendant la semaine et puis après l'idée c'est aussi de garder le contact le partage d'informations, tout ce qu'on veut sur TripAdvisor et compagnie.
Jean-Pierre Nadir, comment on se distingue avec le digital? Qu'est-ce qu'on fait dans le digital, avec le digital dans les clubs de vacances?
Déjà, donc, sur les 90 jours, donc, on peut pas être complètement d'accord. C'est peut-être vrai pour le club, mais enfin, cette année, il y a encore 25%, donc, des Français qui n'ont pas réservé leurs vacances, là, pour juillet-août. Donc, on sait que dans les 10 jours qui viennent, ça va être un rush absolu. Et donc, la dernière minute, y compris sur les clubs de vacances, ce sera quand même un élément d'animation assez fort.
Et il y a des bons prix à espérer, Jean-Pierre, là, en réservant dans les...
Je pense que mes deux amis, là, vont pouvoir donner des tarifs, donc, sur différentes destinations. Je pense qu'il y a encore de très bons plans, effectivement, donc à saisir.
Oui, il y a des bonnes affaires.
Au mois de juillet, tant que la France est qualifiée à la Coupe du Monde, il y a vraiment des très très bons tarifs. Et jusqu'à fin juillet, notamment, que ce soit sur la Grèce, sur l'Espagne, sur la Crète.
Pourquoi, c'est quoi le rapport?
Parce qu'on se rend compte, depuis deux mois, le rythme de vente a un peu baissé sur le marché du tourisme.
Parce que les gens attendent éventuellement si la France va en finale ou pas, c'est ça?
Alors, il y a ce phénomène-là. On se rend compte quand on prend sur les clients qui vont sur Google et qui recherchent des destinations de voyage pendant la période de Coupe du Monde, il y a 4 ans, c'est le même ratio, les recherches ont baissé de 30%, entre 30 et 35%.
Et donc, on se met entre parenthèses jusqu'au 15 juillet au cas où.
Et
on verra
certains aussi types de clientèle sont aussi sur des achats différents. Peut-être on a amélioré l'écran télé, on l'a pris plus grand, on l'a pris en 4K.
Donc, ça se fait au détriment des vacances.
Voilà.
Patrice Karedek, puis on revient vite après. Allez-y.
Oui, bien sûr qu'il y a des affaires à faire et fin juillet, la deuxième quinzaine de juillet, tout le mois d'août est loin d'être complet aujourd'hui. Je rejoins le chiffre de Jean-Pierre. C'est vraiment 25% des Français qui partiront cet été n'ont pas encore choisi leur destination. Je pense qu'ils ont choisi le Concept Club. Et c'est ça l'un des attraits du Concept Club, c'est que c'est pas la destination qui est le critère numéro un. Il y a une sensibilité au prix, à la marque, certes. À la météo, quand on parle du digital, la météo c'est un vrai point et je pense que les gens réservent tard parce qu'ils veulent savoir s'il fera beau sur place. Et voilà, les affaires, il y en aura chez Bravo Club comme chez nous.
Les destinations c'est important quand même. Moi j'aime bien quand je voyage justement qu'il y ait un tout petit peu d'ouverture dans le pays. Mais enfin ça c'est mon sentiment personnel. On revient vite. Est-ce que les clubs de vacances, est-ce que c'est l'avenir du tourisme? On revient avec nos décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, en tout cas, vous faites peut-être partie des Français qui n'ont pas encore réservé leurs vacances. Hein. Tout de suite, c'est Philippe Sangouer qui était à la tête de Kappa Club et du club Coralia qui nous disait voilà, 15% des Français qui vont partir en vacances en juillet-août qui n'ont toujours pas réservé. Alors peut-être pour l'instant, on se met entre parenthèses. Bah oui, dans l'attente d'un heureux événement, je parle de la Coupe du Monde. Oh là là, qu'est-ce que je dis, on n'en parle pas, parce qu'il y a la rediffusion tout à l'heure à minuit, et puis il y a la rediffusion du matin, donc on saura tout sur le fameux match du soir. Bien, tiens, est-ce qu'il y a trop d'acteurs? Qu'est-ce qui est parlé de banalisation? C'était Patrice Caradec tout à l'heure. Ouais, banalisation du club de vacances, Jean-Pierre Nadir. Vous êtes à la tête d'EasyVoyage.com, vous êtes le fondateur d'EasyVoyage.com. Est-ce qu'il faut encadrer la formule, donner des garanties de crédibilité? Pourquoi avoir voulu, pourquoi certains professionnels, comme Fram, comme Thomas Cook, comme TUI, comme Boomerang, ont créé un label Club de Vacances Qualité Garantie? Il n'y a pas le Club Med dans le lot, hein, je le sais.
Non, il n'y a pas le Club Med parce que le Club Med considère que le club, c'est lui. Donc et d'ailleurs, à juste titre, il peut effectivement donc considérer que pour l'instant, il n'a pas besoin de ça. Il faut savoir une chose, c'est que sur le marché français, actuellement, donc on trouve 4500 hôtels animés qui se disent club de vacances. En fait, comme la formule marche très très bien, n'importe quel hôtelier balnéaire donc dans le monde, quand il veut mieux vendre son hôtel, il met club devant et tout de suite les ventes augmentent. Pour être un club, quels sont les critères? Personne ne les connaît puisqu'ils n'ont jamais été définis. Donc il s'agissait de définir des critères minimums pour dire bah on va te mettre ensemble les professionnels des clubs de vacances pour dire on s'engage, on prend les engagements forts vis-à-vis des clients avec un certain nombre de critères.
C'est quoi?
Donc alors les critères c'est quoi? C'est d'abord un club de vacances, c'est les animateurs.
Oui.
Combien vous avez de géo par rapport au nombre de chambres? Bon, deuxième élément,
c'est quoi le bon ratio?
Alors le bon ratio, si vous voulez, c'est d'avoir à minima dans un club de vacances donc 7 à 10 donc géo et ensuite d'en rajouter en fonction du nombre de chambres que vous avez dans le club. Vous avez beaucoup de clubs de vacances qui ont 2-3 animateurs. Vous mettez une perruque donc au cuisinier qui fait un spectacle en fin de soirée, ça fera pas pour autant un animateur. Donc si vous voulez, l'animateur, c'est quelqu'un qui a été formé. Le club méditerranéen, ils ont des écoles de formation et nos amis qui sont ici passent par les écoles de formation pour former les géo.
Combien d'animateurs, combien de géo au Club Med par client justement, enfin au contraire plutôt?
Par client, moi je ne sais pas. Mais enfin, globalement, il y a entre plus de 100, alors on distingue les GO, les GO s'occupant du contact client,
les juste et puis dans les coulisses.
Il y a au moins une centaine de
GO. 80 et le ratio qu'on estime
être le bon, qui parle Patrice Caradec.
Hein. Le ratio qu'on estime être le bon dans les Bravo Club, c'est un animateur pour 10 chambres. Après, tout est fonction de la taille du club. Bon. Chez Bravo Club, on a pris le parti d'avoir des clubs à taille humaine. Donc 80, 100 chambres, donc 8, 10 animateurs. On a un club de 200 chambres, il y a 22 animateurs sur place.
Alors, nombre d'animateurs,
deuxième critère, nombre de chambres dans l'hôtel.
Oui.
Si vous avez 50 chambres perdues dans un hôtel, donc 2000 chambres, c'est pas tout à fait la même chose que si vous avez 50 chambres. Donc nous, on dit, à minima, il faut qu'il y ait 50 chambres et sur des structures qui aujourd'hui sont plutôt entre 200 et 400 chambres. Si vous voulez créer un esprit club, si vos clients se sentent bien, il faut évidemment donc pour ça, créer les conditions et l'environnement. Troisième élément, regardez donc le pédigré des 10 animateurs. Est-ce qu'ils ont le BAFA? Est-ce que les gens qui vont s'occuper de vos enfants donc
on
dans
sait
les
pas
clubs,
ça. On sait pas quand
bah,
on
nous on le vérifie donc nous on ouais, vérifie d'accord. Qu'effectivement il a son diplôme. Ce que fait d'ailleurs la moindre colonie de vacances hein. Donc si vous voulez, au moins on peut affirmer que l'individu en question donc a des compétences pour s'occuper donc des enfants. On va voir effectivement si les on va demander les certificats médicaux des animateurs comme c'est des métiers sur lesquels on s'investit beaucoup, il faut voir s'ils sont en bonne santé etc. etc.
Il y a pas des critères sur la localisation, les plus beaux endroits du monde, sur la bouffe,
non,
tout ça.
Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est les critères qui font la compétition entre les différents acteurs et qui font qu'un produit est plus ou moins intéressant. Là, ce qu'on prend, c'est des éléments objectifs qui disent, OK, un club de vacances, c'est à minima des engagements vis-à-vis du client. Vous savez que vous aurez à disposition les éléments suivants. Parce qu'encore une fois, il y a dans les postures marketing, malheureusement, beaucoup d'impostures. Et donc là, il s'agissait au moins de remettre un peu de clarté.
Ouais, Jean-Jacques Manceau, les batailles du Trident dans les coulisses du Club Med.
Oui.
Alors allez-y, enchaînez. J'ai cru que vous vouliez prendre la parole, c'est pour ça.
Non. Alors après, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont eu envie de participer, et notamment des acteurs historiques comme Fram ou Marmara. Mais après, il y a d'autres acteurs qui ont fait le choix de ne pas le faire. Alors on cite le Club Med, on pourrait citer aussi Bellambra, parce que je pense que eux ne ressentent pas le besoin de justifier de la qualité de leurs produits, puisque on parlait tout à l'heure de la marque comme un des éléments importants dans le choix des clients.
Le Club Med, c'est la deuxième marque de tourisme la plus connue au monde après Hilton. C'est ce que vous expliquez, Jean-Jacques Manceau. Il y a un attachement des Français à cette marque.
Bah, je pense que tout le monde la connaît. Bellambra, c'est un petit peu différent dans le sens que comme ça s'appelait avant VVF.
VVF, oui.
Et que ça a pas mal bougé et qu'aujourd'hui, il y a encore des VVF et il y a des Bellambra, c'est peut-être un chouïa un peu moins connu, mais ça reste quand même une marque forte. Donc c'est vrai que il y a des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent dans le marketing pour imposer leur marque, et peut-être qu'elles ne sentent pas le besoin, et peut-être qu'elles le sentiront à un autre moment, et voilà. Et donc il y a aujourd'hui c'est pas le cas, bon, parce que peut-être que n'ont pas envie de se mélanger. Mais je pense que plus le label va se développer et plus il va s'affiner, je pense que plus il va être sélectif, et plus les toutes les marques de tourisme qui ne sont pas aujourd'hui pourront y adhérer.
Philippe Sangoire.
Juste une précision sur cet aspect, Jean-Jacques, c'est que le Club Med et Bellambra, il y a un critère qui est très important dans le label club, c'est le Wi-Fi gratuit. Et dans ces clubs, aujourd'hui, il n'y a pas le Wi-Fi gratuit dans tous les établissements. Donc, c'était un critère déjà qui était bloquant dès le départ. Après, peut-être, il n'y avait pas envie d'adhérer au label, mais c'est un critère très important pour le label club.
Mais ça, c'est incontournable, le Wi-Fi quand on part en vacances, même si on veut, en effet, décrocher, comme vous le disiez.
Non, mais justement, il peut exister, mais certains le font payer.
Oui, bah, voilà. Non, le Wi-Fi, il doit être tout compris maintenant. Enfin, pardon.
Un partenaire extérieur pour le Wi-Fi. Donc, ce qui justifie comme ça le fait de le faire payer au Club Med. Ah bon. Le Wi-Fi est gratuit. Il y a deux Wi-Fi en fait dans les villages maintenant. On distingue les deux Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi, on va dire Netflix, et le Wi-Fi Mail. C'est-à-dire que le Wi-Fi de base qui permet de se connecter à ses mails dans tous les villages hors Club Med 2, parce que pour des raisons de naviguer dans des zones internationales, il est compris. Après, le Wi-Fi qui permet
plus ou moins
à les ados de télécharger Netflix en même temps, là, oui, il est payant, effectivement.
Jean-Pierre Nadir, d'où l'importance du digital, on revient là-dessus.
Oui, hein. Et surtout, il faut revenir aussi sur l'importance de la marque, parce que, donc Jean-Jacques dit, effectivement, donc les marques, déjà, ça te donne une idée de ce que tu vas avoir. Mais oui et non, parce qu'en fait, la caractéristique des clubs de vacances, c'est qu'il n'y a pas de produits similaires, puisque par définition, l'hôtellerie est toujours différente. Et donc, c'est très important quand même d'avoir un certain nombre d'engagements, parce que ce qui fait le club de vacances, c'est pas la partie hôtelière, c'est quand même la surcouche d'animation qu'on va y mettre. Donc je pense qu'effectivement, prendre des engagements et qu'il y ait une charte à minima est rassurante pour le consommateur. Et comme on dit on veut que ce marché continue à se développer, eh bien on a intérêt à tirer le marché vers le haut et à créer une émulation et à réassurer donc le consommateur. Encore une fois, 4500 produits vendus sur le marché français. Aujourd'hui, donc labellisés, nous en avons 200. Et si je rajoute Bellambra et Club Méditerranée, on serait à 400. C'est-à-dire que grosso modo, on serait à 10% de l'offre du marché. Donc, quand Jean-Jacques parlait de sélectivité, on est bien, effectivement, dans ce rapport. Pour revenir au digital, juste un mot, effectivement, donc là-dessus. Le grand enjeu, en fait, pour les tour opérateurs, pour les acteurs du tourisme, c'est d'éviter, donc, les fourches codines, des GAFA d'un côté, donc, et des grands outillers mondiaux, donc, de l'autre. On sait qu'aujourd'hui, il y a trois ogres. Donc, nous, dans le tourisme, on a tout. On a d'un côté, donc, Google et Facebook qui veulent préempter, donc, le tourisme. Et en dessous, donc, on a trois des acteurs les plus puissants, qui sont Booking, Priceline, donc, Expedia, et maintenant, donc, les Chinois, donc, de ces trips. Et on pourra rajouter dans les GAFA demain Amazon qui va rentrer en piste et en scène assez prochainement, à n'en pas douter. Donc comment faire dans ce milieu?
Comment on s'impose?
Comment voilà, on s'impose justement. Et comment on évite de devoir passer par ces gens-là? Eh bien, un bon exemple, un ami à nous que vous recevez ici régulièrement, Serge Trigano, oui. Avec Emma Shelter. Bon, clairement, donc aujourd'hui, c'est affranchi de Booking. C'est Booking qui a besoin d'Emma Shelter, oui. Et c'est pas Trigano qui a besoin de Booking pour vendre son hôtel. Parce que les gens vont au Home Shelter, ils vont pas dans un hôtel situé porte de Bagnolet. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans une configuration où on vous choisit parce que vous avez répondu à des critères donc digitaux et notamment donc ceux des moteurs de recherche, c'est le moteur de recherche qui décide où va aller le client. Lorsque vous êtes désiré et choisi, il en va tout autrement.
Home Shelter qui tisse sa toile comme ça. Ils ont ouvert Prague là aujourd'hui et ils ont ouvert Belgrade il y a quelques mois. Jean-Pierre Nadir. Tiens, où est-ce qu'on vend
des... T'as des seins juste pour dire parce que c'est de l'hôtellerie animée. Et quelque part, effectivement, ils ont reproduit un peu ces concepts d'animation qu'on vient d'évoquer assez longuement.
Où est-ce qu'on vend des séjours en club de vacances? J'ai remarqué ce chiffre. 1 million de Français réservent leurs vacances en hypermarché, chez Lidl, chez Auchan, chez Carrefour, chez Leclerc. C'est Philippe Sangoire, Patrice Cardec, c'est une vraie tendance, ça?
Oui, c'est une vraie tendance. On a connu Patrice comme moi il y a de nombreuses années où l'agence de voyage Centre-Ville représentait 80% du marché des producteurs. En 20 ans, ça c'est complètement... D'abord, les agences de voyage, les centres commerciaux se sont installés, se sont développés. Les agences de voyage de centres commerciaux se sont développées, Leclerc, Carrefour, Auchan et d'autres. Et automatiquement, on a créé des espaces de voyage, des espaces de rencontre dans les agences de voyage. Et quand on compare aujourd'hui une agence de voyage en ville et une agence dans un centre commercial... Eh ben, on est déjà en voyage quand on est dans le centre commercial d'un grand distributeur.
Qu'est-ce qu'il apporte
Il apporte déjà du choix, de l'expertise. Il apporte aussi une réassurance, puisque souvent ces distributeurs, grandes surfaces, produisent, mettent des brochures en disposition avec une sélection des produits sur tout le marché dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, pour un client lambda de choisir entre 4000 clubs et savoir quel est le bon, on peut passer des nuits sur Internet, ça va être compliqué de faire le bon choix. Ces distributeurs ont fait des approches de concentrer l'offre du marché français.
Patrice Karadec, Alpitour, donc, c'est bravo.
Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Philippe. La grande distribution, on l'a vu naître il y a maintenant une vingtaine d'années, il est arrivé, il a bouleversé avant que Internet n'arrive, ça a été le premier bouleversement dans l'industrie de la distribution de nos vacances. Aujourd'hui, ces grands distributeurs sont avant tout des grandes marques, hein. Vous parliez de Leclerc, de Carrefour, aujourd'hui Lidl, sont des grandes marques qui rassurent le consommateur. Et puis, il y a une chose très importante, et c'est un gros plus par rapport à Internet, qui est aujourd'hui un grand magasin où l'offre n'est pas énormément filtrée, donc pas facile de s'y retrouver. Des réseaux forts comme Leclerc, comme Carrefour, tous ces grands distributeurs, mais je donnerais aussi des marques comme Selectour, qui sont des distributeurs traditionnels, ou Havas Voyage, ont su faire une sélection un peu plus stricte de leurs fournisseurs pour être mieux formés sur le produit et apporter une valeur ajoutée conseil par rapport à ce que le consommateur a pu trouver sur Internet pour apporter cette valeur ajoutée qui est nécessaire pour le consommateur.
Philippe Sangouard, Capa Club.
Je voudrais juste rajouter, c'est qu'il y a 20 ans, on prédisait la fin des agences de voyage.
Oui.
Et il y avait des acteurs Internet qui sortaient des points de vente en ligne et qui devaient tuer le marché de la distribution classique. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse qui se produit. Vous avez des acteurs, je vais citer des gens comme Promovac, ouais. Qui auraient dit il y a 15 ans ou 20 ans que Promovac allait avoir un réseau de distribution.
Physique,
ils
ouais.
sont vus physiques.
Bien sûr.
Aujourd'hui, des Leclerc Voyage, des Carrefour Voyage ou des Lidl Voyage, ils ont des sites Internet où les clients vont acheter toute la nuit, peuvent acheter 24/24, c'est une agence ouverte, et choisir la géolocalisation de l'agence. Donc c'est une force supplémentaire pour le réseau distributeur.
Et on voit en effet comment certaines chaînes comme T8, comme Havas Voyage aussi jouent complètement sur le multicanal avec le commerce physique et puis le web. Ouais. Au club également, il y a encore des points de vente physiques et certains ont été complètement relookés, redimensionnés, même avec des casques virtuels où on peut se projeter, essayer le village avant de le signer quelque part, Jean-Jacques Manceau.
Oui, sur les agences, effectivement, qui continuent à représenter une bonne partie des ventes du club, effectivement, l'expérience client, elle passe aujourd'hui par la visite d'un village avec de la réalité virtuelle. Elle passe par une expérience client. Ils ont arrêté les agences un peu traditionnelles à la papa ou avec l'affiche, avec les petites affiches des différents séjours. Là, ce sont des appartements agences. L'idée, c'est de créer du cosy, que l'expérience client, elle commence en agence. Alors c'est vrai que bon voilà, ce sera pas forcément toutes les agences, mais il y en a une à Lille, par exemple, il y a une maison agence à Lille qui s'est créée. Il y en a deux à Paris, une qui vient de s'ouvrir au Bon Marché, donc avec la clientèle un petit peu haut de gamme du Bon Marché,
du 7e, oui,
sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc l'expérience client, parce qu'elle est vraiment, la clé de la décision.
Ouais, un mot court, Jean-Pierre Nadir. On a parlé des clubs de vacances. Il y a aussi les clubs un peu sur l'eau quelque part. On voit les grands acteurs de la croisière qui lancent des véritables bâtiments, des usines. Hein. On voit le MSC Meravellia qui a été lancé, le Symphony of the Seas de Royal Caribbean.
Toujours plus gros.
6000 passagers à bord, je parle pas du personnel, 6000 passagers. Ça plaît toujours ce type de voyage?
Bah, manifestement oui, parce que les bateaux sont de plus en plus gros, il y a de plus en plus de monde, donc pour les consommer. Et on citait tout à l'heure T8, qui est donc aujourd'hui le plus gros acteur donc des clubs de vacances, hein, puisqu'ils ont 275 clubs donc à destination des Européens, au service des Européens. Ils se sont lancés dans la croisière et ils développent aussi cette activité, parce que c'est une activité extrêmement rentable. Et pourquoi tout à l'heure
santé au niveau européen de la croisière.
C'est absolument formidable. Et pourquoi effectivement donc je faisais le parallèle tout à l'heure entre les deux mondes. Et encore une fois, on peut y mettre donc le camping animé, puisque la promesse est un peu la même. Vous allez tout trouver sur place. Vous aurez effectivement donc de la profusion. Vous aurez une expérience relativement unique. Vous aurez tout sur une semaine, concentré. Et il y en aura pour toute la famille.
Et il y a du potentiel. Parce que la croisière, je crois que c'est 2%, pas plus, des touristes en Europe. Donc on voit, il y a quand même.
Oui, en France, c'est 600 à 700 000 clients. Donc ça reste par rapport à nos 2 millions.
503 000 passagers l'an dernier. Voilà, j'ai retrouvé le
chiffre. Ouais, moi, j'ai un peu plus de 600 000.
Un peu plus de 600 000. Bon, d'accord. Pour conclure, les clubs de vacances, c'est l'avenir du tourisme. Ça illustre le renouveau du monde de voyage. Un mot chacun, Patrice Karadec.
Oui, très clairement, je pense que c'est l'avenir aujourd'hui de notre profession de voyagiste. Ce sont les clubs de vacances. peut-être que les circuits aussi le sont accompagnés, mais si on veut sortir hein, des GAFA, il faut effectivement se lancer dans les clubs de vacances.
Jean-Jacques Monceau.
De manière normée.
Oui. Alors, je pense que la chance pour la France, c'est effectivement la possibilité d'amener notamment la clientèle chinoise en France pour profiter de la montagne, pour profiter de nos endroits uniques, parce que ça reste quand même le pays du tourisme. Donc on a cette clientèle française et il y a cette clientèle internationale qu'il faut réussir à amener, et je pense que ça peut faire le cocktail d'un vrai succès
pour les clubs de vacances. Pour conclure, Philippe Sangoire et Jean-Pierre Nadir.
Disons, le club de vacances, je dirais que le club de vacances se réinvente, et en espérant que dans les années futures, ce qui a été créé chez Kappa Club devienne un club de voyage, puisqu'on se rend compte que les clients changent et que le club de voyage est une vraie motivation.
Club de voyage pour visiter, pour voyager.
Exactement,
évidemment,
pour découvrir la population locale. Le pays.
Voilà. Pas être bunkérisé dans un truc où on ne voit rien du pays. Jean-Pierre, Nadir. Voilà.
Ça, c'est la vraie révolution. Voilà. C'est le fait d'être dans son club et aussi d'être ouvert sur le monde, ouvert sur l'environnement et de partager des expériences avec les locaux, à la fois dans le club et également donc à l'extérieur.
Eh ben, c'est terminé. Merci Jean-Pierre Nadir. Bon été à tous. C'est le fondateur d'easyvoyage.com. Philippe Sangoire à la tête de Kappa Club, du Club Coralia, de Boomerang Voyage. Jean-Jacques Monceau qui nous emmène dans les coulisses du Club Med. Voilà une bonne idée pour lire où vous soyez pour cet été. Les batailles du Trident. Et puis Patrice Karadec, président d'Alpi Tour France, donc à la tête de Bravo Club, 14 clubs dans le monde à surveiller, notamment des ouvertures. Oman, Puerto Vallarta. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.